Chapitre 26. Il arrive toujours un moment dans la vie d'une femme où elle comprend qu'elle est réellement amoureuse d'un homme qui n'en vaut pas la peine. Il m'a fallu près de 3 ans pour en arriver là avec Brian. Peut-être qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. Peut-être qu'au début, je n'avais pas voulu les voir. Tellement j'étais heureuse qu'un homme nous aime, ma fille et moi, autant que Brian semblait nous aimer. D'accord, il avait parfois des sautes d'humeur. Après les 6 premiers mois de lune de miel, la maison était devenue le royaume où s'exerçait sa maniaquerie, et Sophie et moi avions quotidiennement droit à des sermons lorsque nous laissions une assiette sur le plan de travail, une brosse à dents en dehors de son support, un crayon sur la table. Brian aimait la précision. C'était un besoin. « Je suis ingénieur, » me rappelait-il. « Crois-moi, tu ne voudrais pas d'un barrage construit par un ingénieur, je m'en foutiste. » Sophie et moi faisions de notre mieux. « Les compromis, » me disais-je. « Le prix à payer pour avoir une famille. » On renonce à certaines de ses préférences personnelles pour le bien de tous. Et puis Brian allait repartir et Sophie et moi allions passer 8 étourdissantes semaines à laisser traîner nos affaires dans tous les coins. Des manteaux posés sur le dossier des chaises de cuisine, des dessins empilés sur le plan de travail. Oui, nous laissions libre cours à nos envies les plus folles quand Brian s'embarquait. Et puis un jour, j'ai voulu payer le plombier. Et j'ai découvert que toutes nos économies s'étaient envolées. On passe un sale quart d'heure le jour où on prend conscience du faux confort dans lequel on s'était installé. Je savais que Brian allait à Foxwoods. Surtout, je savais qu'il y avait des soirs où il rentrait puant l'alcool et le tabac alors qu'il prétendait être parti en randonnée. Il m'avait menti, à plusieurs reprises, et j'avais laissé passer. Poser des questions indiscrètes m'aurait exposé à une réponse que je n'avais pas envie d'entendre. Alors je n'avais pas posé de questions. Pendant que mon mari manifestement cédait à son vice et perdait au jeu notre livret d'épargne. Shane et moi lui avons parlé. Il a nié. Pas de manière très crédible. Mais à un moment, je me suis retrouvée plus ou moins à court d'arguments. L'argent est revenu comme par enchantement et là encore, je n'ai pas trop posé de questions parce qu'il y avait des choses que je préférais ignorer. Après cela, j'ai vu 2 personnes distinctes en mon mari. Il y avait le gentil Brian, celui dont j'étais tombée amoureuse, celui qui allait chercher Sophie après l'école et qui l'emmenait faire de la luge jusqu'à ce qu'ils aient les joues en feu d'avoir tant ri. Le gentil Brian me préparait des pancakes au sirop d'érable quand je rentrais après mon service de nuit. Il massait mon dos endolori d'avoir porté mon lourd gilet pare-balles. Il me prenait dans ses bras quand je dormais. Et puis, il y avait le méchant Brian. Le méchant Brian me criait dessus quand j'oubliais d'essuyer le plan de travail après avoir fait la vaisselle. Le méchant Brian était cassant et distant. Non seulement il branchait la télé sur n'importe quelle émission, imbibée de testostérone, mais il montait le son quand Sophie ou moi protestions. Le méchant Brian puait la cigarette, l'alcool et la sueur. Il faisait du sport de manière compulsive, comme un homme poursuivi par ses démons. Et puis il lui arrivait de disparaître plusieurs jours d'affilée pour traîner avec les gars, disait le méchant Brian. Alors que nous savions tous les deux qu'il était seul, que ses amis avaient depuis longtemps fait une croix sur lui. Mais le méchant Brian était comme ça, capable de mentir en regardant sa policière de femme dans les yeux. Je me suis toujours demandé, aurait-il été un mari différent si j'avais été une épouse différente? Le méchant Brian me brisait le cœur, et ensuite le gentil Brian réapparaissait le temps de recoller les morceaux. Et nos vies continuaient à filer sur ces vertigineuses montagnes russes. Sauf que tous les tours de manège ont une fin. Ceux du gentil Brian et du méchant Brian se sont achevés précisément au même instant, sur le sol impeccablement propre de notre cuisine. Le méchant Brian ne peut plus nous faire de mal, à Sophie et moi. Le gentil Brian hantera un bon moment mes souvenirs. Mardi matin, 7 heures. La surveillante a commencé l'appel et l'unité s'est peu à peu animée. Ma compagne de cellule, Erika, était déjà réveillée depuis 1 heure. Recroquevillée en position fœtale, elle se balançait d'avant en arrière, fixait du regard une chose qu'elle seule pouvait voir tout en marmonnant. Je dirais qu'elle était montée sur sa couchette peu après minuit. Pas de montre à mon poignet, pas d'horloge dans la cellule, donc je devais estimer le temps qui passait dans ma tête. Ça m'a occupé toute la nuit. Je pense qu'il est 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4h20 du matin. J'ai fini par m'endormir. J'ai rêvé de Sophie. Elle et moi naviguions sur un vaste océan en furie, pagayant de toutes nos forces contre des vagues de plus en plus grosses. « Reste avec moi !» lui criai-je. « Reste avec moi, je te protégerai !» Mais sa tête a disparu sous l'eau noire et j'ai plongé, 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 sans parvenir à retrouver ma fille. Je me suis réveillée avec un goût de sel sur les lèvres. Je ne me suis pas endormie. La tour faisait du bruit dans la nuit. Des femmes anonymes excitaient des hommes anonymes qui gémissaient. Les vibrations des tuyaux. Le ronronnement d'un immense établissement qui essayait de trouver la bonne position. J'avais l'impression d'être dans le ventre d'un énorme monstre, avalé tout rond. Je n'arrêtais pas de toucher les murs comme si le contact rugueux des parpaings pouvait me ramener à la réalité. Ensuite, je m'étais levée pour faire pipi. Le couvert de la nuit était ce que je pouvais espérer de mieux en matière d'intimité. La surveillante était arrivée à notre cellule. Elle a regardé Erika qui se balançait et puis moi. Nos yeux se sont croisés. Nous nous sommes reconnus en un éclair. Et elle est partie. Kim Waters. Elle sortait avec un type de la caserne. Elle était venue à quelques dîners. Bien sûr. Surveillante à la maison d'arrêt de Suffolk County. Je me souvenais maintenant. Elle est passée à la cellule suivante. Erika se balançait plus violemment. J'ai regardé par la fenêtre à barreaux en essayant de me convaincre que le fait de connaître personnellement ma gardienne de prison n'aggravait pas ma situation. 7h30. Petit déjeuner. Erika était levée, elle marmonnait toujours sans me regarder. Agitée. La mette lui avait grillé les neurones. Elle aurait eu besoin d'une cure et de soins psychiatriques plutôt que d'un séjour en prison. Cela dit, c'était le lot commun de la population carcérale. On nous a donné des pancakes mous, de la compote de pommes et du lait. Erika a étalé la compote de pommes sur ses pancakes, qu'elle a roulées et englouties en 3 énormes bouchées. 4 gorgées pour faire disparaître le lait. Ensuite, elle a lorgné sur mon plateau. Je n'avais pas d'appétit. Les pancakes avaient un goût de mouchoir mouillé sur ma langue. J'ai regardé Erika et je les ai quand même mangés avec lenteur. Erika s'est assise sur les toilettes. Je me suis retournée pour lui donner un peu d'intimité. Elle a ri. Plus tard, je me suis servie de ma trousse de toilette pour me laver les dents et me mettre du déodorant. Ensuite, je n'ai plus trop su quoi faire. Bienvenue dans ma première journée de prison. La promenade est arrivée. La surveillante a ouvert notre cellule. Certaines femmes sont sorties, d'autres sont restées à l'intérieur. Je n'y tenais plus. Le plafond de 3 mètres de haut et les fenêtres béantes donnaient une illusion d'espace, mais une cellule reste une cellule. J'avais déjà une overdose de néon, je me languissais de la lumière naturelle. Je suis allée jusqu'au coin salon à un bout de la salle commune où 6 de ces dames s'étaient réunies pour regarder Good Morning America. Trop gai pour moi. Ensuite, j'ai essayé les tables, 4 tables rondes en inox, où 2 femmes jouaient à la dame de pique pendant qu'une 3e caquetait des choses incompréhensibles. Quelqu'un se douchait. Je n'ai pas regardé. Je ne voulais pas savoir. Ensuite, j'ai entendu un bruit bizarre comme un hoquet tremblé, quelqu'un qui essaierait d'inspirer et d'expirer en même temps. Je me suis retournée. La surveillante Kim Waters semblait exécuter une drôle de danse. Son corps était en l'air, ses pieds tressaillaient comme s'ils essayaient de toucher le sol sans le trouver. Juste derrière elle, une immense femme noire aux cheveux longs l'étranglait de son bras musculeux, serrant de plus belle lorsque les doigts de Kim griffaient avec affolement l'épais avant-bras. J'ai fait un pas et dans la seconde, Erika a hurlé « Toutes sur la salope !» Et une 12 de détenus se sont jetés sur moi. J'ai pris un premier coup dans le ventre, par réflexe, j'ai serré les abdos, je me suis tournée vers ma gauche et j'ai balancé le poing dans un bide mou qui s'est dégonflé. Encore un coup maladroit porté à pleine puissance. Esquiver, marcher à l'instinct maintenant, parce que c'était pour ça qu'on entraînait les recrues. À force de répétition, l'impossible devient possible. Mieux. Il devient normal. Et comme ça, le jour où vous vous y attendez le moins, des mois et des années d'entraînement peuvent d'un seul coup vous sauver la vie. Encore un choc violent à l'épaule. Elle visait mon visage, mon œil gonflé, ma pommette cassée. Je me suis mis en garde, dans la posture classique des boxeurs pour protéger ma tête, et je me suis dirigée vers l'assaillante la plus proche. Je l'ai prise par la taille, lancée contre les autres qui se ruaient vers moi, et j'en ai fait tomber deux dans un enchevêtrement de bras et de jambes. Cris, douleur, rage, les leurs, les miens, peu importait. Bouger, 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 impérativement rester sur mes pieds, faire face ou succomber sous le nombre. Une douleur cuisante. Quelqu'un me tailladait l'avant-bras pendant qu'un autre poing me démolissait l'épaule. J'ai fait un nouveau pas de côté. Donner un coup de coude dans le ventre de mon assaillante, un coup à la gorge du tranchant de la main, elle s'est effondrée et n'a plus bougé. Les quatre dernières ont fini par reculer. Sans les quitter des yeux, j'essayais d'analyser un paquet d'informations en même temps. Les autres détenus, où ? Retournés dans leurs cellules ? Confinement volontaire pour ne pas se faire cuisiner plus tard ? Et Kim ? Étranglée, elle se débattait derrière moi, collègue en difficulté, le bouton d'alarme. Il était forcément quelque part. Nouvelle coupure à mon bras. J'ai chassé le couteau d'une claque, puis lancé mon pied et atteint la femme au genou. Et après j'ai hurlé, 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 hurlé encore. Des jours entiers de rage, d'impuissance et de frustration sont enfin sortis de ma gorge, parce que Kim était en train de mourir, parce que ma fille était sans doute déjà morte, parce que mon mari était mort sous mes yeux, emportant le gentil Brian avec lui, parce que l'homme en noir avait kidnappé ma fille, ne laissant que l'œil bleu de sa poupée préférée, et parce que je les aurais, ils allaient tous me les payer. Ensuite j'ai avancé. J'étais probablement encore en train de hurler très fort. Et je pense que je devais avoir l'air démente parce que mes assaillantes ont reculé jusqu'à ce que je me jette sur elles en montrant les dents poings serrés. J'avançais à coups de pied, à coups de poing. J'avais de nouveau 23 ans. Regardez la tueuse d'ogre. Regardez la tueuse d'ogre quand elle est vraiment, vraiment énervée. Mon visage dégoulinait de sueur. Mes mains dégoulinaient de sang. Les deux premières femmes étaient à terre pendant que la troisième courait se mettre paradoxalement à l'abri dans sa cellule. Mais la quatrième, armée d'un couteau artisanal, se croyait en sécurité. Elle avait sans doute déjà réussi à mettre en fuite des clients agressifs ou des macros en colère. Je n'étais qu'une chochotte de petite blanche, pas de taille à lutter contre une femme qui avait vraiment été à l'école de la rue. Un râle dans le bureau de la surveillante. Une femme en train de mourir. « Vas-y » ai-je dit à l'autre d'un air vicieux. « Vas-y, salope ! Montre voir ce que t'as dans le ventre !» Elle m'a foncé dessus. L'abruti. Je me suis décalée sur la gauche et je lui ai donné un coup de bras tendu dans la trachée. Elle a laissé tomber le couteau pour se tenir la gorge. J'ai ramassé l'arme et sauté par-dessus son corps vers le bureau de la surveillante. Les pieds de Kim ne dansaient plus. Elle était toujours suspendue dans les airs, un bras noir autour de la gorge et ses yeux se voilaient. J'ai fait le tour. J'ai levé les yeux vers la grande femme noire qui n'était finalement pas du tout une femme, mais un homme aux cheveux longs qui avait trouvé moyen de s'introduire dans l'unité. Il a semblé étonné de me voir. Alors je lui ai souri et je lui ai planté le couteau entre les côtes. Le corps de Kim est tombé par terre. Le détenu a reculé en titubant et en se tenant le côté. J'ai avancé vers lui. Il a voulu fuir, se retourner, courir vers la porte de l'unité. Je lui ai donné un coup de pied à l'arrière du genou droit. Il a trébuché. Coup de pied à l'arrière du genou gauche. Il s'est effondré et a roulé sur le côté, levant les mains pour se défendre. Je me suis dressée au-dessus de lui, avec la lame ensanglantée. Je devais faire peur à voir avec mes mains dégoulinantes, mon visage meurtri, mon regard borgne, parce que le grand noir a fait dans sa combinaison orange de prisonnier. J'ai levé le couteau. « Non !» a-t-il murmuré d'une voix rauque. Je lui ai planté la lame dans le gras de la cuisse. Il a hurlé, j'ai remué et j'ai chanté pour que toute l'unité entende. « J'ai perdu mes dents de devant, mais pourtant, maman, je les brossais souvent. » Le détenu a sangloté quand je me suis penchée, que j'ai repoussé ses longues boucles noires et que j'ai murmuré comme une amoureuse à son oreille. « Dis à l'homme en noir que j'arrive. Dis-lui. » Qu'il est le prochain. J'ai de nouveau remué le couteau. Ensuite, je me suis relevée. J'ai essuyé la lame sur mon pantalon et j'ai appuyé sur le bouton d'alarme. Est-ce qu'on est en deuil quand on voit son monde prendre fin? Quand on a rejoint une destination sans retour? L'équipe d'intervention s'est ruée dans l'unité. Tout l'établissement a été bouclé. On m'a mis les chaînes là où j'étais. Les jambes flageolantes, les bras lacérés avec de nouvelles ecchymoses qui fleurissaient sur mes flancs et mon dos. On a emporté Kim sur une civière, inconsciente, mais vivante. Ma quatrième assaillante, celle qui avait apporté le couteau artisanal, est partie dans une housse mortuaire. Je les ai regardées remonter la fermeture, sans la moindre émotion. Erika sanglotait. Elle a tant et si bien crié, gémi et fait des siennes, qu'ils ont fini par l'embarquer à l'infirmerie pour lui administrer de fortes doses de sédatifs et la placer sous surveillance anti-suicide. Les autres ont été interrogés, mais comme ça se passe dans ces cas-là, elle n'avait aucune idée de ce qui avait pu arriver.
« Pas sorti de ma cellule. Pas regardé dehors. Entendu du bruit, faut dire. Oh, ça s'est bien castagné à ce que j'entendais. J'ai dormi tout le temps surveillant, faut me croire, c'est vrai. »
Le détenu noir, cela dit, expliquait à qui voulait l'entendre que j'étais l'ange de la mort et que, pitié, 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 Dieu me tienne éloigné de lui. Le commissaire adjoint s'est finalement arrêté devant moi. Il m'a considéré un long moment et j'ai lu dans son regard que je ne valais pas tous les problèmes que je lui causais. Ma punition est tombée en un seul mot.
« Isolement.
Je veux mon avocat.
Qui a agressé la surveillante ?»«
Madame Doupfeyer. » »«
Madame Doupfeyer, monsieur. Bon. Et pourquoi le détenu a-t-il agressé la surveillante ?»«
Je ne sais pas, monsieur. »
Vous êtes en prison depuis moins de 24 heures. Comment vous êtes-vous procuré un couteau artisanal?
Je l'ai pris au garce qui essayait de me tuer. Un temps. Monsieur.
À une contre six.
Il ne faut pas chercher une policière. Monsieur. Il a failli sourire.
Au lieu de ça, il a levé le pouce vers le plafond et les nombreuses caméras. C'est l'avantage en prison, Big Brother vous regarde en permanence. Alors, pour la dernière fois, détenu, est-ce que vous avez quelque chose à me dire?
Waters me doit des fleurs.
Il n'a pas contesté, donc il en savait peut-être déjà plus long qu'il ne laissait paraître. Infirmerie, a-t-il dit en montrant mes avant-bras lacérés.
Avocat, ai-je répété.
La demande sera transmise par les canaux appropriés.
Pas le temps.
J'ai regardé l'adjoint. « J'ai décidé de pleinement coopérer avec la police de Boston »,
ai-je clamé haut et fort pour que tout le monde entende.
« Appelez le commandant Didi Warren. Dites-lui que je vais la conduire au cadavre de ma fille. »